France Musique. Musicopolis. Jean-Louis Florence, le goût de l'ailleurs.
La finalité, au fond, de l'ethnomusicologie, moi personnellement, je la ressens comme ça, au fond, c'est la création. La création, pas forcément artistique, musicale ou plastique, la création d'un autre mode de rapport, d'un nouveau mode de rapport avec des populations, des ethnies, des modes de pensée, des cultures complètement différentes des nôtres. Et ça passe par la compréhension réciproque, approfondie, c'est-à-dire la connaissance, écouter l'autre, se taire, apprendre de l'autre. Et ça entraîne un contact, un échange, et par conséquent, ultimement, ne jamais perdre de vue ça, une métamorphose réciproque des relations.
Florence, on l'entend lorsqu'il parle d'ethnomusicologie, l'ailleurs est avant tout ancré dans l'être humain, dans la rencontre et l'écoute. La liste de ses voyages donne l'idée de cette passion pour l'autre qui a été la sienne. 14 voyages en Afrique du Nord, au Niger et en Côte d'Ivoire, entre 1971 et 79. Puis entre 81 et 97, 4 voyages au Kenya, 8 voyages en Israël, Martinique, Polynésie, Afrique du Nord, Égypte. Un goût de l'ailleurs qu'il a pris très tôt, qui ne l'a plus quitté et qui a nourri sa musique d'une manière tout à fait unique pour un compositeur de la fin du XXe siècle. Jean-Louis Florence est né en 1947 et il a fait ses études chez les frères et les pères maristes à Saint-Chamond, dans la Loire. Là, dans un environnement très religieux, il a l'occasion de voir de nombreux films documentaires réalisés par des pères blancs, c'est-à-dire des missionnaires d'Afrique. Des films qui vont orienter sa vie d'homme et de musicien. Curieusement, et d'abord un peu par hasard, sa découverte de l'ailleurs par les documentaires va déterminer aussi son chemin musical.
Les sciences, c'est d'abord un choc très important. Le choc sans doute le plus important de mon adolescence et même de mon enfance, après celui de Jean-Sébastien Bach. Je me souviens que ça se passait à une époque où j'étais chez les pères maristes. Nous avions de temps en temps des projections de films de missionnaires et une fois j'ai vu un film sur des missionnaires papous. Il y avait des couleurs extraordinaires de paysages d'Australie. Et en même temps que ce film, on entendait une musique que je trouvais étrange, qui m'avait énormément impressionné longtemps. Et je suis resté sur le souvenir de cette musique sans savoir du tout de qui c'était et ce que c'était. J'ai su plus tard ce que c'était lorsque j'ai commencé à faire de l'orgue vers 14 ans. Et j'ai su que c'était un extrait de Dieu parmi nous, de Messiaen, donc extrait de la Nativité pour orgue. C'est la première chose de Messiaen que j'ai entendue et je devais avoir à peu près 7 ou 8 ans. Et je ne l'ai jamais réentendu avant l'âge de 13 ou 14 ans à peu près. C'est ça la première impression très forte de Messiaen. Et une association des sons avec les couleurs. Lorsque j'ai entendu cette œuvre de Messiaen dont j'ai parlé, c'était associé à un paysage que je voyais en film, un paysage inouï, enfin bon, la forêt du sud de l'Australie, la Papouasie. Et ça, je ne pourrais jamais l'oublier, c'est quelque chose qui m'a marqué pour la vie.
L'orgue de Messiaen a beaucoup impressionné Jean-Louis Florens, qui va associer cette musique aux couleurs des paysages de Papouasie et d'Australie. Il écoute les concerts d'orgue du jeudi à la radio, il entend les œuvres de Tournemire, Duruflet, Jehan Alain, Dupré. Il est émerveillé par toutes les harmonies qu'il entend. Dans son école, il a accès à deux orgues, et il va essayer de reproduire ce qu'il a entendu. Il cherche sans fin sur les claviers. L'orgue sera l'instrument auquel il consacrera ses premières œuvres. Jean-Louis Florens a de nombreux centres d'intérêt. Son enfance assez isolée, un peu sauvage, l'a rapproché de la nature. Il aime les langues et les sciences. Il fait des études d'arabe littéraire et à l'université, il poursuit aussi des études scientifiques, sciences naturelles, zoologie, éthologie, à côté d'une licence de musicologie. En 1971, à 24 ans, il est admis comme auditeur dans la classe de Messiaen. Il apprécie le maître lui-même, mais il est déçu de ce qu'il appelle la situation idéologique de l'époque. En se retournant sur la période de ses études quelques années plus tard, Jean-Louis Florenz écrit « Je dois dire que je suis arrivé à Paris en 1971 dans un climat musical que je ne souhaite pas aux jeunes d'aujourd'hui. Beaucoup de dictature, d'intolérance empêchaient d'apprendre convenablement un métier. Nous étions tous censés penser dans la même direction, avoir les mêmes points de repère, avant même de savoir rédiger, orchestrer quoi que ce soit. On enseignait la musique de façon linéaire, en la limitant aux plus grands créateurs qui en avaient marqué l'évolution, Berlioz, Debussy, Stravinsky, Schoenberg, Webern. Tout en reconnaissant cette réalité, j'étais ulcérée de voir traiter comme des insectes un Richard Strauss, un Puccini, un Britten, un Poulenc. En fait, la formation des compositeurs était ciblée sur la seule question relevante : qui va prendre la plume après un tel ? Cette vision des choses restait désespérément sans objet pour moi. En même temps que la classe de Messiaen, Jean-Louis Florenz suit les cours de Pierre Schaeffer au GRM. Être élève de Schaeffer, comme le dit François Bernard Mache, c'était apprendre à entendre la musique dans ce que tout le monde croyait être du bruit. Savoir entendre la nature, les oiseaux, les sons industriels. Être élève de Schaeffer, c'était découvrir que l'âme musicale pouvait migrer. Un haut-parleur, un réacteur d'avion, pouvait être subitement habité d'une âme musicale. Dans les classes de jeunes compositeurs, Jean-Louis Florenz n'est pas heureux. Mais Messiaen lui dit « Cher ami, partez, allez en Afrique, voyagez, 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 voyagez au sud !»
Ma relation à l'Afrique, noire en particulier,
et au Proche-Orient sémitique est d'abord et avant tout une histoire d'amour. C'est dans cette perspective qu'il faut le comprendre. Ça veut dire que tout ce que je peux dire de ce que j'ai vu et vécu là-bas doit être d'abord reçu dans l'ordre de la contemplation. Il n'y a pas d'attitude d'ordre intellectuel ou abstraite par rapport à tout ça. Si vous voulez, je n'ai pas décidé un jour d'aller voir ce qui se passe là-bas plutôt qu'ailleurs. Il y a des chocs de l'enfance qui font que très tôt dans mes études, je suis allé là-bas chercher et trouver beaucoup de réponses à mes questions, mais d'un point de vue global, pas seulement musical.
Deuxième précision, qui est un peu la conséquence de la précédente, c'est qu'il se trouve qu'étant musicien, ces musiques africaines et proche-orientales ont des retombées dans la mienne, mais j'aurais très bien pu ne pas être musicien, je serais pilote de ligne ou chirurgien, tout ce que vous voudrez. Dans ce cas-là, je vivrais là-bas pour les mêmes raisons, pour une relation amoureuse à ces terres-là. Bon, étant musicien, donc, il y a eu des retombées de tout ça dans ma musique. Lorsque j'étais au conservatoire, nous vivions dans une situation extrêmement difficile sur le plan idéologique. Et compte tenu des émotions essentielles de ma jeunesse musicale, il m'a plus ou moins implicitement, même parfois explicitement, été suggéré, et je reste dans la litote, d'oublier tout ça comme autant d'idoles branlantes de jeunesse, de balises inutiles. Et ça, je n'ai pas pu l'accepter. Parce que ce qu'on me proposait en échange, c'était... négation totale de la couleur, des forces de tension détente dans la musique, de ce qui m'était le plus cher, et que je commençais en plus à découvrir en Afrique, donc au niveau de ce qui constitue les fondements même de l'expression humaine, au niveau de l'humanité entière. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que par la suite, je n'ai pas cessé de voyager dans cette perspective essentielle qui était de retrouver partout, aussi bien chez les Maasai que chez les Djerma-Sonrai, que chez les Palestiniens, des modes d'expression qui recoupent d'une certaine manière les nôtres et qui feraient apparaître ce qu'il peut y avoir de plus permanent, de plus essentiel dans la nature humaine et dans sa façon de s'exprimer. Et cela jusqu'aux polyphonies des oiseaux intertropicaux. Et ça, je l'ai trouvé.
On entend un enregistrement de la veillée de l'Assomption, réalisé par Jean-Louis Florenz en août 1989 à l'église orthodoxe de Jérusalem. Ici, un extrait de la cinquième grande litanie avec tambour et sistre, un enregistrement publié dans la collection Okora Radio France. Au cours de ses voyages d'études à travers le monde, Jean-Louis Florenz a vécu des moments exceptionnellement intenses, aussi bien dans la contemplation de la beauté des paysages, des champs, des humains ou des animaux, que dans la découverte des malheurs de certaines populations. Toutes ces expériences se retrouvent peu ou prou dans sa musique. par une petite synthèse du parcours musical de Jean-Louis Florence. Il s'est construit sur des bases occidentales qui lui étaient chères. Debussy, Dutilleux, Penderecki, Puccini, Henze, Britten, une partie de Messiaen, Tournemire pour l'orgue, et en même temps, sur tout le monde nouveau qu'il apprenait à connaître, celui de la musique arabe et de la musique noire africaine. Puis, pour arriver à la cohérence de construction et de création, il lui a fallu assumer et synthétiser cette double manière de penser la musique. Le poème symphonique « Czar Gilan » opus 18 de Jean-Louis Florence, l'ensemble orchestral de Paris dirigé par John Nelson. C'est la dernière œuvre de Jean-Louis Florence, créée en 2003, moins d'un an avant sa mort. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Et pour nous écrire, rien de plus simple, vous cliquez sur l'onglet Contact. Notre grande petite équipe était composée aujourd'hui de Benjamin Vignal pour le mixage, Philippe Petit pour la réalisation, Clément Diaz pour les recherches et Hortense Leblouc pour le site.
À réécouter sur francemusique.fr.